Bonjour, chers amis à l'écoute de cette émission La vie en abondance. Je suis heureux que vous soyez des nôtres pour ce court moment de partage autour de la parole de Dieu. Puissiez-vous être réconfortés et encouragés par le message que vous allez entendre. Sir Walter Scott était un grand écrivain écossais. Nous lui devons des romans tels que Ivanhoé et Quentin Durward qui ont ravi des millions de lecteurs et qui ont été portés à l'écran. Quand Sir Walter était sur son lit de mort, il a demandé à un assistant « Apportez-moi le livre ». La personne en question lui a demandé à juste titre « Quel livre ?» Scott avait une bibliothèque bien garnie et il était lui-même l'auteur de plusieurs romans à succès. La réponse du grand écrivain fut « Il y a un seul livre, la Bible ». En effet, c'est dans ce livre que nous trouvons les paroles de vie, d'encouragement et de réconfort dont nous avons tous besoin quand nous sommes confrontés avec les vicissitudes de la vie. Un des passages bibliques qui a apporté consolation et force spirituelle aux croyants de tous les siècles se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Voici ce que le Seigneur Jésus a déclaré à ses disciples. « Que votre cœur ne se trouble point. » Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une particularité de l'Évangile selon Jean, c'est que nous trouvons dans chaque chapitre un portrait différent de notre Seigneur Jésus-Christ. Je citerai ici juste quelques exemples. Au chapitre 1er, Jésus est la parole de Dieu. Au chapitre 2, il est le Christ social qui s'intéresse aux besoins matériels terrestres de ses créatures. Au chapitre 4, il est le gagneur d'âmes. Au chapitre 5, nous voyons notre Seigneur en tant que divin médecin. Au chapitre 6, Jésus est le pain de vie. Au chapitre 8, nous le rencontrons en tant que défenseur des faibles. Au chapitre 9, Jésus brille comme la lumière du monde, tandis qu'au chapitre 10, il se présente comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Au chapitre 11, qui est le chapitre central de l'évangile de Jean, Jésus est la résurrection et la vie. Au chapitre 14, dont nous venons de lire un extrait, il est le divin consolateur. Il est ce consolateur dans deux sens. Premièrement, Jésus savait que c'était le dernier rendez-vous avec ses disciples avant sa crucifixion. C'est pourquoi il les rassure et les console en leur parlant du glorieux avenir qui les attendait et des perspectives formidables qui leur étaient réservées. Dans un deuxième temps, dans ce même discours, Jésus leur a promis la venue du Saint-Esprit qui allait le remplacer et qu'il appelle le Consolateur et l'Esprit de vérité. Le Seigneur Jésus est donc effectivement notre Consolateur, le seul qui puisse vraiment nous consoler quand nous sommes attristés, déboussolés et désemparés. Il se peut que vous passiez par des moments pénibles ou que vous ayez perdu un être cher. Sachez que notre Seigneur aimerait être votre Consolateur. Jésus commence donc cette partie de son discours d'adieu avec une parole d'assurance. « Que votre cœur ne se trouble point. » Les disciples avaient toutes les raisons d'être inquiets, troublés et perturbés, puisqu'ils allaient perdre leur maître bien-aimé. Mais celui-ci les rassure par des paroles d'une envergure exceptionnelle. Ces paroles sont également d'actualité pour vous, qui que vous soyez et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Il y a tellement de cœurs troublés dans ce monde, troublés pour différentes raisons. La situation actuelle est certainement une énorme source d'inquiétude pour des millions de gens un peu partout. L'avenir incertain, les catastrophes naturelles, une maladie incurable, un chômage qui persiste, tout cela peut troubler notre cœur. Quelques semaines après le tremblement de terre qui a secoué la Martinique, j'ai rencontré un jeune couple avec un bébé. La jeune femme a exprimé son désarroi et sa peur par rapport au tremblement de terre qui menace notre île. Elle était visiblement perturbée, son cœur était troublé. Mais c'est aussi pour elle et pour tous ceux qui lui ressemblent que le Seigneur Jésus a donné cette parole d'assurance, que votre cœur ne se trouble point. » À présent, le Seigneur Jésus indique la source de notre assurance. Il nous explique pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir peur, d'avoir un cœur troublé. Il dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Autrement dit, croyez au Père et croyez au Fils. Mais pourquoi donc devons-nous croire au Père et au Fils? Pour la simple raison que Dieu est notre seul refuge valable, notre rocher, notre abri, notre haute retraite. Amis à l'écoute, quand nous avons Dieu dans notre vie, nous n'avons pas besoin de craindre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Quand mon épouse et moi sommes arrivés aux Antilles en 1966, nous étions financièrement soutenus par notre mission. 2 ans plus tard, on nous a fait savoir qu'elle n'était plus en mesure de nous soutenir. Sur un plan humain, nous aurions certainement eu toutes les raisons possibles pour avoir un cœur troublé et pour nous faire des soucis pour notre avenir. Mais nous avons mis notre confiance au Père et au Fils, et nous avons expérimenté que notre Dieu est capable de s'occuper de ses enfants et de combler leurs besoins. Il se peut que vous disiez « J'ai toujours cru au Père et au Fils ». Mais attention, croire dans le sens biblique est bien plus qu'un simple assentiment intellectuel. Il ne suffit pas d'admettre l'existence de Dieu. Croire, c'est mettre sa confiance en Dieu. Cela signifie que nous lui faisons totalement confiance, tout d'abord pour le salut de notre âme, mais aussi pour tous les autres aspects de notre vie. Le Seigneur Jésus a poursuivi son message d'encouragement en déclarant « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Notre Sauveur ôte ici quelque peu le voile du monde spirituel, invisible. Il nous permet de jeter un coup d'œil dans les réalités célestes. Auditeur, il nous parle ici de notre avenir éternel. En nous parlant de ces demeures célestes, Jésus confirme d'abord la réalité de la vie après la vie. Il existe toutes sortes de conceptions par rapport à l'au-delà, dont voici quelques échantillons. Certains prétendent « quand on est mort, on est bien mort ». Pour les adeptes de cette philosophie, l'homme n'est que matière. À notre mort, cette matière se décompose. On peut même accélérer ce processus en se faisant incinérer. L'erreur de ce raisonnement, c'est qu'on oublie que l'homme est un être tripartite. Il est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Il possède une partie matérielle, visible, qui est périssable, et une partie spirituelle, immatérielle, invisible, qui est immortelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré « Les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles ». D'autre part, il y a de ceux qui croient à la réincarnation, qu'on appelle parfois aussi transmigration de l'âme. D'après ce point de vue, après votre mort, votre âme se réincarne dans un autre corps, humain ou animal, en fonction de la façon dont vous avez vécu votre vie présente. Mais que dit la Bible au sujet de l'au-delà? Les Écritures saintes affirment clairement la résurrection de tous les morts et une vie après la mort. Ces mêmes Écritures nous font également comprendre qu'il n'y a que 2 endroits où nous pourrons passer l'éternité, soit dans la présence de Dieu, dans un lieu de félicité indicible et inimaginable, soit dans un lieu de tourment éternel appelé « étang de feu et de soufre ». Dans notre passage, Jésus parle de la maison du Père avec de nombreuses demeures. Ces demeures représentent donc un lieu de félicité, de bonheur éternel, de paix et de joie indicible. Elles sont réservées pour ceux qui, de leur vivant, se sont mis en règle avec Dieu. Pour employer des termes bibliques, ces gens se sont repentis de leurs péchés, ils se sont convertis à Dieu, ils ont expérimenté le miracle de la nouvelle naissance, et ils ont marché avec le Seigneur en renonçant au péché sous toutes ses formes. Cette dernière remarque est particulièrement importante, parce que notre Seigneur a déclaré « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Non seulement le Seigneur Jésus nous parle-t-il dans notre passage de la réalité de la maison du Père, avec ses nombreuses demeures, il cite également une raison pourquoi il allait retourner au Père. « Je vais vous préparer une place. » Et il a ajouté aussitôt, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Jésus annonce ici son futur retour sur terre. Pour bien des gens, parler du retour de Jésus est utopique, irréel et absurde. Mais retenez ceci. Le Nouveau Testament à lui seul renferme plus que 300 passages qui parlent clairement du fait que Jésus va revenir. En voici juste deux exemples. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le jour de l'ascension de notre Seigneur, les anges ont dit aux disciples, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mais attention, il reviendra seulement comme sauveur pour ceux qui, de leur vivant, l'ont invité dans leur vie et qui se sont préparés pour son retour. Pour les autres, il reviendra comme juge et un sort terrible les attend. Quant à notre passage, Jésus complète la pensée de son retour en stipulant « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Voici l'espérance des vrais chrétiens, une éternité de félicité, de bonheur et de joie inimaginable dans la présence de notre glorieux Sauveur. Chers amis à l'écoute, la pensée du retour du Seigneur Jésus vous réjouit-elle ou vous effraie-t-elle? Il se peut que votre vie ne soit pas encore en règle avec Dieu. Pourquoi ne pas régler la question de votre salut maintenant? En ce moment même, la Bible vous assure qu'en confessant vos péchés à Dieu et en invoquant son nom, vous obtiendrez le pardon et le salut de votre âme. Je vous invite à prier avec moi. Si vous aimeriez que Jésus-Christ entre dans votre vie et fasse de vous son enfant, répétez après moi. Seigneur Jésus, je confesse que je suis un pécheur séparé d'avec toi. Pardonne tous mes péchés et viens dans mon cœur et ma vie. Sauve-moi pour l'éternité et donne-moi la victoire sur mes mauvaises habitudes. Merci de me donner ton précieux Saint-Esprit, le Consolateur que tu as promis. Je te remercie de ton amour et de ton salut. Amen. Prenez maintenant votre Bible et lisez vous-même l'Évangile selon Jean, et ceci du début jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne lecture. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même longueur d'onde, puisse le Seigneur vous garder tout près de lui.